Plusieurs élus de l'Occitanie ont présenté, mercredi dernier à la maison de la région à Tarbes, les dispositifs d'aide aux entreprises mis en œuvre depuis plusieurs années. Jean-Louis Cazebon, vice-président de la région, et les conseillers régionaux Yolande Guin, Pascal Peraldi et Bernard Plano ont évoqué les PAS et les contrats proposés aux entreprises pour faciliter leur création ou leur développement. Ils représentent une somme de 27 millions d'euros d'aide pour la période de 2016 à 2019. Quatre chefs d'entreprise ont apporté leur témoignage sur l'impact positif de cet accompagnement pour leur projet. La maison de la région à Tarbes propose un accueil centré sur plusieurs services, l'information, les transports scolaires et interurbains, la formation professionnelle et l'emploi, et enfin l'aide aux entreprises avec l'agence ADOC. Elle organise aussi des expositions comme celle consacrée à la Retirada en février 2020 et celle dédiée à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le travail en mars 2020. Dans ce reportage de Jean-François Courtille, Jean-Louis Cazebon, vice-président de l'Occitanie, détaille les différents types d'aides et d'accompagnement proposés par la région aux entreprises.
C'est une priorité, c'est la priorité en clair, le développement économique dans les territoires, parce que vous voyez bien que dès qu'il y a de l'emploi, il y a de la vie sur les territoires, il y a des habitants. Ce ne sont pas des déserts à partir du moment où il y a de l'économie. Alors elle s'y prend de telle manière qu'elle met en place tout un tas de dispositifs qui peuvent aller alors du plus léger, qu'on appelle des PAS, avec une réactivité immédiate en direction de l'entreprise qui investit moins de 40 000 euros. Voilà. Et puis après, derrière, elle peut, la même entreprise, si elle se développe, elle peut enclencher un contrat à Agroviti pour des investissements plus conséquents. Et là, on peut obtenir des aides jusqu'à 650 000 euros, mais pour des investissements de 2-3 millions d'euros avec des emplois derrière, bien entendu.
Et cela concerne tout type d'entreprise, depuis la TPE jusqu'à la grande entreprise.
C'est exactement ça, avec chacun dans leur spécialité. C'était des PAS et des contrats dans l'industrie. Et aujourd'hui, ça va aussi des PAS en direction de l'agriculture ou de la viticulture, et avec des contrats pour les grandes coopératives qui investissent plusieurs millions, évidemment.
Et aujourd'hui,
pour
vous
les accompagner notamment à l'export, il y a des contrats croissance, des contrats export. Alors les financements et les soutiens, ils sont dirigés vers l'investissement matériel, mais aussi l'immatériel. Il peut s'agir de ressources humaines, de cadres ou bien de forces commerciales pour aller exporter les produits hors de nos frontières.
Alors on n'y pense pas nécessairement, mais l'un des derniers PAS que vous avez mis en place en 2009, c'est celui qui concerne les métiers d'art.
Oui, alors celui-là, c'est celui que je maîtrise le moins, mais effectivement, il est destiné à ces entreprises qui sont sur le territoire, qui peuvent aussi valoriser, par exemple, l'ardoise, certains types de matériaux. J'ai vu qu'il y avait même de la photographie. Ben, on est justement dans l'art, voilà. Et c'est pour aider ces entreprises-là qui emploient des gens. Hein, et l'économie, c'est tout un panel d'activités.
En termes de budget, qu'est-ce que ça représente ce budget développement de la région Occitanie aujourd'hui ?
Je peux vous le dire pour les Hautes-Pyrénées, pour les 3 ans, parce que j'ai regardé les chiffres. De 2016 à 2019, sur les 3 ans, c'est 27 millions d'euros qui ont été destinés à tout type d'entreprise pour les accompagner dans leurs projets d'investissement. L'idée, c'est de mettre en place un effet levier pour les aider et les inciter. Alors, les entreprises disent que dans certains cas, c'est un accompagnement psychologique, mais ça va quand même bien au-delà. Quand l'aide tombe, ça va au-delà du psychologique.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça a un effet de levier, c'est-à-dire que notamment, ça permet de rassurer les banquiers qu'on va les voir pour présenter un projet.
Exactement, c'est bien ça. Les banquiers, personnellement, j'ai vu des projets passer parce qu'il y avait l'aide de la région. Je parle là de contrats, de projets conséquents. Les PAS également, les PAS s'adressent à des projets, 40 000 euros d'investissement. C'est un besoin d'outils rapides que l'entreprise a besoin pour développer, répondre à des marchés qui se développent. Mais dans d'autres cas, quand c'est plus conséquent, eh bien, ça contribue à l'équilibre, au business plan, en clair. Et le banquier, il y est assez sensible. Parce que derrière, ça enclenche aussi, on peut aller, il y a des financements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment des Foster, qui est un instrument de garantie à 0%, donc il ne faut pas de caution, il faut pas, et ça, ça aide aussi les entreprises.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure aussi le rôle des maisons d'Occitanie, des maisons de la région. Bon, il y en a une à Tarbes au cours de laquelle vous avez présenté aujourd'hui ces dispositifs. Et quelle est l'importance pour vous de ces maisons? Quel est leur rôle?
Eh bien, c'est très important parce que la région, sinon, c'est très abstrait. Ça se passe à Toulouse, ça se passe à Montpellier. Et la critique qui a été faite, c'est la région est trop grande. Bon, c'est la loi NOTRe qui a voulu que ce soit comme ça. Et les régions, elles ont été fusionnées. Donc, il faut faire avec. La proximité, la décentralisation, c'est quelque chose de bien, de bon. On est plus près des instances décisionnelles. Je prends un exemple, vous prenez les lycées, il y a 30 ans, ils étaient laissés à l'abandon. Aujourd'hui, c'est la première compétence que les régions ont pris en compte. Les lycées, ils sont remis à neuf et en état. Et ici, dans la région Occitanie, il faut en construire deux par an pour répondre à la croissance de la population. Un à l'est, Montpellier, un à l'ouest, Toulouse. Voilà. Et effectivement, ces investissements-là, bon, ils peuvent apparaître lointains. Mais pour répondre aux préoccupations des habitants, des citoyens de la région, il faut une équipe d'accueil. Ils peuvent se rendre à la maison de la région, à Tarbes, ici. Là, il y a trois personnes qui les dirigeront vers les besoins qu'ils ont exprimés. Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut être réorienté, mettre en place une formation? Voilà, c'est pour diriger, c'est la réponse aux préoccupations du terrain. La proximité, c'est ça. Et alors ici, la maison de la région abrite dorénavant les services transports scolaires et lignes non urbaines. Ils sont ici. Ça, c'est assez lourd. Il y a 13 personnes qui travaillent. Et travailler avant, c'était une compétence du département. Ces personnes-là ont été reprises. Ils ont des savoir-faire, ils connaissent le terrain. Bon, ils ont été repris par la région. Le développement économique, c'est 6 personnes qui travaillaient avant, ce qu'on appelait l'ex-CDDE, Comité départemental de développement économique. Et puis, il y a tout le côté, le volet formation. Il y a une équipe, une dizaine de personnes également, là, qui oriente les gens vers les formations adaptées et puis qui aident à monter leur projet.
Est-ce qu'il existe une maison de l'Occitanie dans tous les départements de la région?
Ben, disons, elles se mettent en place progressivement. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai pas fait, pour être très honnête, peut-être qu'il y en a un ou deux qui ne l'ont pas encore, mais oui, celle-ci, c'était l'ancienne maison commune emploi-formation. Elle est située dans ce lieu où on retrouve tous les autres acteurs qui travaillent dans le domaine de l'emploi, et Pôle emploi,
la mission locale.
La mission locale, voilà. Et c'est dans le même, tout ceci, c'est dans le même lieu, il y a une synergie qui se met en place aussi.
En termes de création d'emplois, justement, quel est un peu l'objectif, l'espoir des élus de la région Occitanie avec ces dispositifs pour développer l'emploi dans la région?
Ben, c'est justement pour développer l'emploi, on ne croit pas beaucoup, il faut être réaliste. Moi, le Père Noël ne va pas passer demain matin et amener une entreprise avec 500 emplois. Donc, il faut aider les acteurs endogènes, les gens qui sont sur place. L'entreprise 4 emplois, vous avez vu les exemples qui sont là, qui ont été mis en évidence. Bon, je peux citer les noms. Il y avait l'entreprise Faliero, 2014, 45 emplois. Aujourd'hui, 75. Elle se développe, elle a besoin d'investir, elle a besoin de compétences en matière de ressources humaines. Voilà, c'est ça. Il faut s'appuyer là-dessus, sur les forces vives des territoires, pour les développer. Et alors, ça, c'est l'objectif premier, c'est d'essayer de déconcentrer, en clair. Depuis 30 ans, on veut favoriser les métropoles régionales. elles sont au bord de l'asphyxie. En termes de déplacement, quand vous allez à Toulouse le matin, à Montpellier c'est pareil, très difficile d'y circuler. On a besoin d'emplois sur tout le reste du territoire. Et c'est par le biais de ces initiatives qu'on peut justement aider et impulser une dynamique pour développer l'emploi dans les territoires ruraux aussi.
À l'instant, c'était Jean-Louis Cazobon, vice-président de l'Occitanie. Patrick Lesgar, co-gérant de la chocolaterie-confiserie Noir ou Blanc à Lourdes et Pouzac, raconte la manière dont le soutien de la région a favorisé le développement de son entreprise et la création d'emplois.
Cette chocolaterie avait été créée par M. et Mme Somprou à Lourdes. Donc, ils avaient le laboratoire de production chez eux à leur domicile et une boutique rue de la Halle en plein centre-ville. Donc, en 2015, lorsqu'ils ont souhaité partir à la retraite, nous avons repris le fonds de commerce de cette entreprise, mais il fallait déménager le labo, construire un nouveau labo. Pour pouvoir amortir cet investissement, nous avons fait le choix de le déplacer sur Bagnères, enfin, parce qu'on habitait aussi Bagnères, il y avait un petit côté chauvinisme, mais surtout pour pouvoir créer une deuxième boutique attenante au laboratoire. Donc aujourd'hui, c'est exactement les mêmes produits. On a surtout fait attention à garder la même qualité avec les chocolatiers qui travaillaient déjà dans l'entreprise. Par contre, tout est fabriqué sur le laboratoire de Pouzac, enfin, à l'entrée de Bagnères, avec une boutique attenante au laboratoire et la boutique sur Lourdes que nous avons conservée, si ce n'est qu'on l'a juste déménagée de l'autre côté de la rue, dans la même rue des Halles. On est passé du numéro 3 au numéro 4, mais dans un bâtiment, un local trois fois plus grand qui permet d'accueillir mieux les clients et surtout les accueillir à l'abri. Parce que je me rappelle M. Somprou qui me disait que les clients faisaient la queue dehors à Noël, je ne le croyais pas, je l'ai vu, c'était vrai. Bon, aujourd'hui, ils peuvent être au chaud à l'intérieur. Et on a le pari, c'était de conserver et la qualité de ce produit, le savoir-faire et la clientèle. Voilà, un pari qu'on a tenu sur Lourdes et sur Bagnères aussi aujourd'hui maintenant.
Combien d'employés compte aujourd'hui votre société ?
Alors aujourd'hui, il y a 8 emplois CDI, sans nous compter à nous, les gérants, plus beaucoup de CDD, puisqu'on a quand même une grosse activité saisonnière à Noël et Pâques, qui doit faire à peu près l'équivalent de 1,5 équivalent temps plein, quoi.
Vous avez donc à un moment donné entendu parler d'ADOC, qui est l'agence économique de la région Occitanie. Comment d'ailleurs vous en avez entendu parler ?
Alors, ADOC, je connaissais en termes de structure régionale, mais leur dispositif, je l'ai appris par la presse. Effectivement, c'est en lisant le journal, un jour, j'ai vu qu'ils mettaient en place de nouveaux dispositifs. Bon, mais je les ai appelés ce jour-là, tout de suite. Bon, j'étais un peu en avance parce qu'ils n'étaient pas encore mis en place, ces dispositifs, mais 15 jours après, les décrets étaient passés. Et en fait, après avoir repris l'entreprise, fait des investissements dans le nouveau laboratoire et tout, au bout de 2 ans, on s'est vite retrouvé coincé par un manque d'investissement, de chambres froides, de matériel. Voilà, il fallait, dès qu'on a maîtrisé un petit peu la production et les locaux où on était, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre un deuxième coup de pouce. C'était une deuxième tranche d'investissement assez lourde. Et là, donc, on a monté un dossier, ça s'appelle un Pass Agroviti, sur lequel la région nous a aidés à faire ces investissements.
Et l'aide de la région, elle est importante sur le plan financier, mais vous disiez tout à l'heure au cours de la présentation que c'était important aussi sur le plan psychologique.
Oui, parce que bon, dans un premier temps, on a toujours tendance à regarder le montant, le taux de subvention. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va faire du bien lorsque l'argent va tomber sur le compte en banque. Mais ce que je disais, c'est le plus important, c'est qu'au départ, quand on est chef d'entreprise, on se projette sur l'avenir à 2 ans, 3 ans, 5 ans. On commence par rêver, ensuite on écrit un projet, on essaye de le chiffrer. Et là, on commence à avoir peur, à mesurer les risques, j'y vais pas. Et de savoir que quelqu'un ou que la région va nous aider par un dispositif qui aura, bon, il y aura un côté économique, hein, une subvention, mais aussi un accompagnement, des gens avec un regard extérieur qui vont vous poser des questions, qui vont peut-être dire non à votre projet parce qu'ils le trouvent mal ficelé ou qu'il manque tel ou tel élément. Donc de sentir qu'il y a cet appui, effectivement, c'est une aide à la décision. Voilà, la solitude du chef d'entreprise, c'est à un moment donné, je décide tout seul, j'y vais pas. Je demande aux banques, il me faut un dossier qui tienne la route. Et savoir que la région nous appuie, que quelqu'un de la région a étudié le dossier, qui vont apporter une part en auto, enfin, dans l'autofinancement, bon, ben, quand on va voir les banques, c'est déjà beaucoup plus facile, on a déjà une caution. Et ça, ça aide beaucoup à la décision. Je dirais la subvention, elle tombe après, mais c'est qu'une écriture comptable qui vient faire du bien au compte en banque. Faut pas être non plus, faut le reconnaître. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est au départ, lorsqu'on doit prendre la décision. Voilà.
Vous envisagez aussi un développement d'une autre activité sur Campan ?
Alors, sur Campan, j'avais une autre entreprise que l'on a cédée, là, maintenant, dans la transformation des fruits. C'était l'entreprise Les Petits Fruits. Non, là, sur notre activité chocolat, le gros problème, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on fait plus de 50% de chiffre d'affaires sur 15 jours à Noël et une semaine à Pâques. Sachant qu'il y a quand même 6 mois de travail pour fournir ces 3 semaines de vente. Donc, c'est quand même très lourd à gérer en trésorerie, en main-d'œuvre. Surtout que on est encore parmi les rares chocolatiers à ne pas congeler les chocolats. Chez nous, tous les produits sont frais. La plupart des chocolatiers en France congèlent leur chocolat, mais ne sont pas obligés de le dire. Donc, vous ne le verrez jamais marqué dans un magasin. Bon, donc, nous, on a essayé de garder la qualité que faisaient les Sompro, de rester fidèles. Mais face à ce problème de saisonnalité, voilà, on se rend compte que l'été, il fait de plus en plus chaud. Personne ne mange du chocolat l'été. On a développé tout un réseau de magasins de produits régionaux. Mais là aussi, il faut des produits autres que le chocolat. Donc, à force de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire l'été, on a fini par se dire on va faire des glaces. Et donc là, le projet actuel, c'est de monter une nouvelle entreprise de fabrication de glace, sorbet et glace, sur une base de produits locaux, de crème, de lait, fait par des agriculteurs des Hautes-Pyrénées, voisins. Voilà. Et donc, je vais solliciter à nouveau la région, peut-être pour un accompagnement sur ce projet.
Voilà, à l'instant, c'était Patrick Lesgar, co-gérant de la chocolaterie-confiserie Noir ou Blanc à Lourdes et à Pouzac. Enfin, Claudine Padroni-Bourdieu, responsable de la maison de la région à Tarbes, située dans le quartier de l'Arsenal, présente l'activité de son équipe et les services proposés au public.
Dans notre maison de ma région à Tarbes, nous avons en tout 32 personnes qui travaillent réparties en 4 services. Un service de coordination et d'information qui accueille le public notamment, et ça je vous dirai plus tard les horaires pour que ça soit très concret pour vos auditeurs. On a un service dédié à la formation professionnelle et à l'emploi, un service dédié au transport, transport scolaire, ligne régulière et transport interurbain. Et nous avons un service dédié à l'économie, au développement économique, à l'accompagnement des entreprises dans toutes les étapes de leur vie et de développement. Voilà.
Alors peut-être une information importante pour commencer. Autrefois, quand on voulait par exemple aller faire sa carte pour avoir des réductions de transport dans le coin, on allait au département et maintenant c'est chez vous que l'on vient.
Alors effectivement, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'au 6 janvier, on devait se rendre à l'hôtel du département pour faire sa carte de transport scolaire. Depuis le 6 janvier, ça se passe effectivement dans la maison de la région, dans le quartier de l'Arsenal, au 8 avenue des Tilleuls. Donc voilà, il faut retenir cette adresse. C'est vrai que dans le quartier de l'Arsenal, on n'a pas forcément ces pratiques notamment pour les transports scolaires, eh bien voilà, il faut que les habitudes se prennent. Le service des transports accueille tout le public concerné entre 9h le matin et 12h30, 13h30 et 17h. Idem pour les horaires d'ouverture pour toutes les personnes qui auraient des questions tous azimuts, je dirais, sur les politiques régionales et sur les aides que la collectivité régionale peut apporter. Donc là, nous avons aussi ce service d'accueil à l'endroit où vous êtes actuellement. Voilà.
Alors vous êtes situé dans un lieu qui était autrefois la maison commune emploi-formation, mais l'accompagnement vers l'emploi et l'accompagnement vers la formation, ça fait partie vraiment de vos missions au quotidien.
Effectivement, il y a un service donc dédié à l'emploi et la formation. Nous avons aussi dans notre proximité très 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 proche des services comme la mission locale qui s'occupe des jeunes de 16 à 26 ans pour leur insertion professionnelle et leur formation. Nous avons une structure comme Cap Emploi qui accompagne les personnes en situation de handicap, toujours par rapport à l'activité professionnelle, et diverses autres partenaires, dont aussi Pôle Emploi, la délégation territoriale, ce qui n'est pas une agence, hein, c'est un petit peu différent. Mais voilà, ce lieu, il est très très ouvert. Il y a un accompagnement emploi-formation qui se fait au quotidien. Et de toute façon, si la région accueille le public ici, c'est aussi pour permettre au public d'être réorienté vers le partenaire le plus adapté dans le cadre de ses recherches.
Alors on a évoqué longuement la question du développement économique avec le vice-président Cazobon, mais ici aussi des gens qui souhaitent parler d'un projet de création d'entreprise, ils peuvent venir vous voir. C'est vous qui êtes là aujourd'hui à leur écoute.
Oui, tout ce qui est porteur, tous les porteurs de projets qui ont une idée, qui ont quelque chose, un projet plus écrit, plus avancé, plus réfléchi, ou même des entreprises comme on a vu ce matin qui sont dans des étapes de développement de leur entreprise, peuvent trouver ici des réponses. Soit la région, dans ses propositions, a la mesure qui convient bien. On a parlé de passes diverses et variées, de contrats. S'il n'y a pas dans la boîte à outils régionale le dispositif qui convient, il y a une réorientation vers des partenaires. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on travaille beaucoup en partenariat. Et je pense notamment pour les porteurs de projets à tout ce qui est étape de création, reprise d'entreprise, où on travaille beaucoup avec les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers et chambres de commerce et d'industrie, qui sont des partenaires incontournables.
Il y a un autre aspect que vous essayez de déployer à la maison de la région Occitanie, c'est celui de la culture. Vous accueillez des expositions et notamment aujourd'hui vous avez une très belle exposition sur la Retirada, l'histoire de la Retirada. Comment est-ce que vous avez organisé cette exposition?
Alors, le mémorial de Rivesaltes a conçu cette exposition photo. Ce sont 16 portraits de républicains espagnols qui ont subi cet exode, qui ont été arrachés à leur pays natal et qui se sont retrouvés dans des camps en France. Cette exposition, elle est assez touchante parce que c'est une histoire qui n'est pas si éloignée que ça de nous tous, qui nous touche de près parce que soit on vient de familles issues de cet exode, soit on a connu des personnes issues de cet exode. Et donc c'était important de garder en mémoire quand même des périodes aussi noires de notre histoire qui doivent rester vraiment inscrites dans les mémoires et qui doivent être transmises aux jeunes générations. Voilà.
Quelles sont les prochaines expositions prévues après celle sur la Retirada?
Alors nous aurons au mois de mars une exposition sur l'égalité homme-femme qui s'intitule « Les métiers ont-ils un sexe ?». Voilà. Et il y aura des animations proposées pour des petits collectifs pour venir réfléchir et débattre sur effectivement les métiers ont-ils un sexe et les limites que ça peut avoir dans le quotidien professionnel des publics qui viendront débattre et d'autres qui viendront témoigner. Des chefs d'entreprise également viendront parler de tout ça.
Voilà, c'est avec Claudine Padroni-Bourdieu, responsable de la maison de la région à Tarbes, que se termine ce reportage que nous devons à notre correspondant sur Tarbes, Jean-François Courtille.